OK, on va commencer notre 54e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Aujourd'hui, on va regarder le calvinisme et l'écuménisme. On en est rendu à la deuxième partie et fort probablement qu'il va y avoir une troisième partie et peut-être une leçon après et ça terminerait cette série-là. Alors, on sait, on avait entrepris au cours des dernières leçons de situer le calvinisme par rapport aux autres grands mouvements religieux de notre époque, donc le fondamentalisme chrétien. On avait regardé également le néo-évangélisme, le pentecôtisme charismatique et l'écuménisme. C'est ce qu'on est en train de faire dans notre deuxième leçon. Alors, dans notre leçon précédente, on avait examiné brièvement l'histoire de l'écuménisme. On va étudier aujourd'hui ses caractéristiques, ses croyances et ses erreurs dans les Saintes Écritures. Alors, je reproduis un article qui s'intitule « Écuménisme, où est la vraie unité des chrétiens ?» qui j'ai trouvé sur le site web BibliQuest. C'est vraiment un article qui était très bien écrit, très bien développé, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Et la seule chose que je tiens à mentionner avant qu'on en fasse la lecture, c'est que fort probablement que c'est un chrétien d'origine des frères chrétiens et leur position sur l'enlèvement se reflète à l'intérieur de leur l'article. Mais ceci étant dit, le reste est vraiment, je crois, très valable. Alors, le premier point qu'il développe, c'est l'unité des chrétiens selon la prière de Jean 17. Donc, on le sait que c'est la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Donc, la prière que Jésus a faite au Seigneur, lui demandant des choses concernant les siens. Alors, ce que le Seigneur a dit en Jean 17 sur les caractères des vrais chrétiens. Alors, le mouvement œcuménique a pour but de réunir tous les chrétiens en une seule Église. Il met spécialement en avant la prière du Seigneur de Jean 17 et son verset 21, d'où on extrait les paroles « Que tous soient un, afin que le monde croit ». Pour bien comprendre cette phrase, il importe de voir le contexte, ce qu'a dit exactement notre Seigneur dans cette prière. Parlant des disciples au verset 14, le Seigneur dit « Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Ceci souligne premièrement que les vrais disciples sont guidés par la parole de Dieu et deuxièmement qu'ils sont étrangers dans ce monde, étant sujets à son inimitié comme Christ, selon la haine qui a conduit le monde à le crucifier, lui, le Fils de Dieu. Ce caractère de conformité à Christ et d'étranger spirituellement au monde est souligné au verset 16. « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Tandis que le verset 15 reconnaît clairement que c'est dans le monde, autrement dit le monde physique, que le chrétien a à se trouver. Il dit, je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Alors, cette présence du mal dans ce monde oblige le chrétien à se tenir à l'écart pour se garder du mal. C'est la sainteté dont parle le verset 17 qui suit. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Le moyen de sainteté et de sanctification est ainsi la parole de Dieu. Tout ceci ne veut pas dire que le chrétien n'a rien à faire avec le monde. Le verset 18 dit au contraire, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Donc notre modèle est la position du Seigneur Jésus qui s'est abaissé pour aller auprès des pécheurs en tout genre pour leur apporter la bonne nouvelle du salut. En effet, le verset 20 montre que la prière du Seigneur n'était pas limitée aux 11 disciples, mais s'étend jusqu'à nous. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. Et c'est alors qu'intervient au verset 21 cette demande du Seigneur à son Père, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. On voit combien on peut en fausser la portée si on le sort de son contexte. Alors, on remarque que c'est toujours la même chose. Ils utilisent les versets et ils sortent hors de leur contexte. Alors, quand tu sors un verset hors de son contexte, tu peux lui faire dire à peu près n'importe quoi. Alors, il ressort de ce passage que le chrétien ne peut pas avoir un christianisme mêlé au monde et mélangé à l'esprit de ce monde. Mais il s'y trouve au contraire en étranger, séparé du mal, pour y rendre un témoignage conforme à la parole de Dieu. L'unité des croyants est bien selon les désirs du Seigneur, mais elle est d'abord une unité entre croyants fidèles à Christ, selon la parole de Dieu. Alors, ça dit dans le verset 20, « Ceux qui croient en moi par leur parole. » Alors, on sait que Judas était déjà sorti au moment de cette prière. Alors, il faisait la prière à l'intérieur d'un groupe de personnes qui étaient vraiment régénérées. Alors, il ne suffit pas d'être baptisé pour être concerné par l'unité des chrétiens, mais il faut être né de nouveau. Ici, c'est un point fondamental. Eux, leur unité est basée sur si tu étais baptisé, peu importe où, orthodoxe, protestant, catholique, pour eux, ça c'est la base de l'unité, le baptême, n'importe quelle sorte de baptême. Alors qu'ici, on fait la distinction que l'unité des chrétiens est basée sur le fait que nous sommes nés de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il a beau avoir été baptisé, il n'est pas chrétien pour autant. Alors on retrouve la même chose en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, où l'unité des croyants est affirmée comme étant celle des membres d'un même corps, le corps de Christ. Qui pourrait imaginer qu'on puisse être membre du corps de Christ sans avoir la vie de Dieu, la vie nouvelle? L'unité faisant l'objet de la prière du Seigneur en Jean 17 est donc une unité dans la séparation du mal et de l'esprit du monde et dans l'obéissance à la parole de Dieu, y compris lorsqu'il s'agit d'apporter le message divin ou l'Évangile au monde. Ce passage de Jean 17 ne doit pas être tronqué pour n'en retenir que le seul verset 21 en oubliant tout le reste. Alors, en quoi la prière de Jean 17 a-t-elle été exaucée? Les croyants constitués en un par le Saint-Esprit, le corps de Christ depuis la Pentecôte. Les épîtres sont là pour nous montrer l'accomplissement de cette prière du Seigneur pour l'unité. Elle l'a été en ce que les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, constituent une même famille, celle des enfants de Dieu, qui sont passés par la nouvelle naissance, mais surtout, ils constituent ensemble un seul corps depuis la Pentecôte, acte 2. Cette unité ayant été formée par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13, et Éphésiens chapitre 4, verset 4, et ce seul corps est appelé le corps de Christ, lui en étant la tête, comme on peut le lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 22-23, et Colossiens chapitre 1, verset 18. Le Seigneur lui-même en fait part à Paul lors de sa conversion. Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il parle de son Église, puis il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». C'est comme en persécutant son Église, il persécute le Seigneur Jésus lui-même. Alors il reconnaît que dans le fond, l'ensemble de son Église, c'est son corps. Alors, et aussi par révélation en rapport avec la scène dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 17 et chapitre 11, verset 23. Alors, ici, il y a une mention qui est faite. Il dit que l'Église, l'unité est déjà faite, il faut la vivre. Dans le fond, quand on pense au principe fondamental que l'Église, c'est l'ensemble des personnes régénérées, nées de nouveau, l'unité est déjà faite. C'est juste qu'il faut la vivre. C'est différent que d'essayer de la monter sur une base qui est non biblique. Alors, selon l'Écriture, cette unité existe donc. Elle n'est pas à faire, mais il faut la vivre et la manifester. Certains diront que cela est contredit par les faits, par le morcellement de l'Église universelle. Certes, les chrétiens ont failli à rendre le témoignage collectif qu'ils devaient rendre, mais chacun reste porteur d'un témoignage qu'il rendra suivant la réalité de sa vie intérieure. Tous les membres de la famille de Dieu, les membres du corps de Christ, sont solidaires et exhortés à garder l'unité de l'esprit. Soyons remplis de l'esprit de Christ de telle manière que nous discernions en tout vrai croyant un enfant de Dieu, un membre du corps de Christ, et que nous l'aimions comme tel, sachant que Christ aime son assemblée. Il s'est livré pour elle et la nourrit et la chérit et la purifie, comme on peut le voir dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 29. Alors, bien entendu, il y a d'autres passages que Jean 17 concernant l'unité. Alors, on a 2 Corinthiens, chapitre 6, après le verset 14. Alors, les Écritures nous disent qu'il n'y a pas de communion possible entre la lumière et les ténèbres. Donc, les enfants nés de nouveau et les personnes qui ne sont pas nés de nouveau, même s'ils ont été baptisés, font partie des ténèbres. Alors, les Corinthiens sont l'objet de longs reproches de l'apôtre à cause de leur esprit de parti et de division. C'est le sujet des 4 premiers chapitres de la première épître aux Corinthiens. Il insiste ensuite sur l'unité des croyants dans l'assemblée ou église, en ce qu'ils sont constitués un seul corps, animé par un seul esprit. Pourtant, ce même apôtre insiste sur l'incompatibilité du croyant avec l'incrédule. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15 et verset 14 à 18. Celui qui professe être chrétien, mais n'est pas né de nouveau, fait partie des incrédules. Cette incompatibilité empêche d'avoir aucune communion, comme c'est mentionné dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Or, le croyant est lumière dans le Seigneur, Éphésiens 5, verset 8, et Philippiens, chapitre 2, verset 15. Alors, il ne peut y avoir d'unité avec le mal. D'autres passages enseignent la même chose que ce qui vient d'être vu. D'une manière générale, Dieu est un Dieu saint qui ne peut supporter de voir le mal, tel que mentionné dans Habacuc, chapitre 1, verset 13. Alors, garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, tel qu'il est mentionné dans Éphésiens, chapitre 4, verset 3, implique non pas de s'aider les uns les autres à mal faire, mais de s'encourager à obéir ensemble au Seigneur, selon la parole de Dieu. Il n'y a pas lieu de reconnaître comme chrétiens ceux qui manifestement n'ont ni la vie ni l'esprit. Tous les apôtres, Pierre, Jean, Jude, Paul, dénoncent avec force les faux chrétiens, les faux frères furtivement introduits, comme on peut le voir dans Galates chapitre 2, verset 4, glissés parmi les fidèles, comme on peut le voir dans Jude 4, qui n'ont que la forme de la piété, comme on peut le voir dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Seulement, dans la confusion présente, il n'est pas toujours aisé de les démasquer. Néanmoins, chaque croyant est sous l'obligation de se retirer du mal, qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur, comme on peut le lire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. La certitude que le Seigneur connaît ceux qui sont siens ne peut autoriser à unir le bien et le mal, ni la vérité et l'erreur, sous couvert d'unité ou d'unité de l'esprit. La séparation du mal commence individuellement, on le voit par l'expression du mot « quiconque », et le fidèle est invité à poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. L'amour souffre de ne pouvoir marcher avec des personnes qui, quoique chrétiennes, n'obéissent pas à l'injonction de se séparer du mal, mais ce serait renier cet amour même que de les encourager dans l'iniquité dont il faut se séparer. Prenons garde à 1 Jean, chapitre 5, verset 2. Alors, il y a le passage de Luc 9, versets 49 et 50, et chapitre 11, verset 23, où on parle de celui qui amasse, disperse et tout ça. Là, on va regarder ce passage-là. Alors, dans le passage de Luc 9, le Seigneur déclare, « Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Chapitre 9, verset 50. Cette affirmation est utilisée quelquefois pour prétendre qu'on peut associer à tous ceux qui ne sont pas des opposants déclarés à Christ. Mais l'occasion de cette affirmation était simplement qu'un homme qui ne suivait pas la compagnie du Seigneur et des disciples chassait néanmoins des démons au nom de Jésus. Les disciples ne devaient donc pas le lui reprocher ni le lui défendre sous le prétexte qu'il ne les suivait pas. Cet homme marchait autrement que les disciples, mais il manifestait une puissance réelle au nom de Jésus. On ne pouvait le classer parmi ceux qui sont contre Jésus. Par contre, dans le passage de Luc 11, verset 23, la situation a évolué et le Seigneur est rejeté. On l'accuse même de chasser les démons par le chef des démons. Chapitre 11, verset 15. Alors le Seigneur doit affirmer « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi » dans le verset 23. Quand Christ est considéré comme acceptable, on n'est pas testé moralement. Mais quand l'opinion publique se dresse contre lui et qu'il est évident que suivre Christ, c'est être méprisé par les grands et par les sages, alors voilà un critère fort. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Verset 23. Plus Christ est rejeté, plus le vrai chrétien doit partager son sort. Comment donc alors pratiquer l'écuménisme avec tant de gens qui ou bien nient la divinité de Christ ou nient l'inspiration de sa parole ou bien simplement n'ont pas la vraie foi personnelle qui sauve et amène à la nouvelle naissance? Je pense que c'est un passage important à comprendre. Luc, chapitre 11, verset 23, « Dispersés ou assemblés avec Christ. » Or, si le test précédent est pour les personnes, le Seigneur donne aussi un test pour leurs œuvres. Selon ce qui est ajouté, « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Le verset 23. C'est un principe très solennel. Il peut se faire qu'un homme soit avec les chrétiens, et pourtant, dans ses travaux, il construit ou soutient ce qui est de ce monde. Une telle personne peut arriver à être un prédicateur populaire et produire de grands effets, tant humanitaires que religieux, mais peu importe les effets apparents, il n'en reste pas moins que celui qui n'assemble pas avec moi disperse, dit le Seigneur. Il n'y a pas de dispersion aussi réelle aux yeux de Dieu que de rassembler les chrétiens sur de faux principes. C'est pire que s'ils n'étaient pas rassemblés du tout. C'est là un obstacle plus profond à la vérité, parce qu'il y a un esprit de parti et de dénomination qui devient inévitablement hostile à Christ. Un faux point de rassemblement substitue un autre centre à Christ et accroît par conséquent la confusion et la dispersion. On arrive ainsi à ce paradoxe de l'écuménisme. Alors qu'il prétend rassembler, en réalité, il disperse parce qu'il n'assemble pas autour de Christ seul. Alors, avant de parler d'unité, il faut parler des principes de base, leurs principes de base de l'écuménisme qui sont faux. Et le premier principe de base, c'est que la nouvelle naissance est ignorée. La plupart des grandes églises chrétiennes acceptent tous les baptisés, ou même davantage. Ce sont des églises, comme ils appellent, des multitudes. Il est significatif que l'on n'entend, pour ainsi dire, jamais parler dans les propos écuméniques de la nouvelle naissance. Hélas, que de gens abusés qui se tiennent pour chrétiens, pour entrer dans le royaume de Dieu, et on les traite comme tels. On dit même qu'ils sont des enfants de Dieu, sans pourtant qu'ils soient nés d'eau et d'esprit, tel que défini dans le Jean chapitre 3. Une notion qui est méconnue quand elle n'est pas inconnue. Comment, dans ces conditions, le culte, selon la parole, pourrait-il être connu? Alors, premier principe, nouvelle naissance ignorée. Deuxième principe, beaucoup d'autres vérités importantes qui sont soit méconnues ou soit inconnues. Alors, outre cette question de la nouvelle naissance, bien d'autres vérités sont ou bien mal connues ou bien inconnues ou bien refusées quand ce n'est pas ridiculisé. On peut citer en particulier la Bible comme parole de Dieu, le retour du Seigneur pour enlever son Église, le jugement éternel, l'état de perdition du monde qui va vers le jugement, la mort de Christ en sacrifice pour le péché, la résurrection des corps, la marche chrétienne dans la piété provenant de l'enseignement de la grâce. Alors, si vous vous souvenez de votre leçon sur l'Église émergente, toutes ces choses-là qu'on vient de nommer, là, il les rejette. Alors, est-ce que c'est des vrais frères? Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui fait des choses pareilles soit un vrai frère en Christ? On peut avoir des sérieux doutes. Alors, cette question de la vérité mise de côté est encore reprise plus loin. Or, toutes ces vérités ont des conséquences pratiques sur la vraie vie chrétienne, individuelle d'abord, collective ensuite. Alors, la confusion entre la chrétienté de nom et le corps de Christ unissant réellement les vrais croyants. Mais, dira-t-on, malgré tout ce qui vient d'être dit, l'écuménisme a fait de réels progrès. Certaines églises protestantes ont fusionné, les diverses églises multiplient les dialogues, des points de doctrine qui paraissent irréductibles ont été surmontés, notamment entre l'Église catholique et les luthériens. En bien des endroits, les protestants réformés et luthériens ont fusionné, les actions sociales et humanitaires se multiplient. Or, s'il est vrai que ces diverses églises constituent bien la chrétienté, elles ne forment pas pour autant le corps de Christ. Comment pourrait-il inclure des gens qui n'ont manifestement pas la vie de Dieu, plusieurs niant des vérités fondamentales comme la divinité de Jésus-Christ, l'inspiration divine de l'Écriture, le salut par grâce et bien d'autres, ne cherchant d'ailleurs même pas à se soumettre à l'autorité de cette Écriture. Autrement dit, la vraie nature de l'unité chrétienne issue de la réalité du corps de Christ est une vérité soit incomprise ou soit méconnue. On parle de corps de Christ, mais l'idée d'un lien vital avec Christ glorifié, l'idée que cela soit ce qui unit réellement les vrais chrétiens, les vrais croyants entre eux, l'idée que l'Église soit appelée à manifester Christ ici-bas, tout cela est méconnu, est inconnu ou ignoré volontairement. La confusion entre la chrétienté de nom et le vrai corps de Christ explique qu'une Église qualifiée comme telle, par exemple celle de Laodicée, dans Apocalypse, verset 3, verset 16, puisse être vomie par Christ. Comment peut-on expliquer ça autrement? Christ, il dit qu'il va vomir. Alors, s'il les vomit, c'est parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Alors qu'un autre, Sardes, puisse être considéré par lui comme morte. Alors, autrement dit, s'il considère qu'une église est morte, c'est qu'à quelque part, il y a pas, la nouvelle vie n'est pas dedans. Alors, c'est comme des chrétiens professants de nom. Malgré sa réputation d'être vivant, il ne s'agit pas là d'une chose étrange et inconnue jusqu'alors. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13, prend comme exemple ce qui est arrivé à Israël, où tous faisaient partie extérieurement du peuple, mais une grande partie n'a pas été agréée de Dieu. C'est ce qu'on a appelé des professants sans vie. Alors, on va regarder un peu le vocabulaire qui trompe et qui vide le christianisme de son sens. Peut-être dira-t-on que c'est faire preuve d'outrecuidance que de refuser à de grandes églises entières le qualificatif d'être d'église chrétienne. Mais il ne faut pas faire de dispute de mots, 2 Timothée chapitre 2, verset 14, mais il faut parler le langage de l'Écriture. Voilà ce qui se passe dans de grandes églises. On parle de chrétiens, mais on se contente de gens qui sont baptisés sans avoir la vraie foi. On parle d'Évangile sans parler ni de Christ mort à notre place en portant le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés, ni de délivrance du péché, ni de repentance. On parle de salut et d'être sauvé, mais cela se rapporte le plus souvent aux difficultés de la terre et non à la délivrance du péché ou de la colère de Dieu contre le péché, et encore moins au sort solennel. On parle de l'Église contre laquelle les portes de l'Hadès ne prévaudront pas, mais on ne voit pas qu'il ne s'agit là que de l'Église bâtie par Christ avec des pierres vivantes qui sont les vrais croyants. On parle de culte, mais l'adoration est remplacée par des discours ou de la musique sans adoration vraie. On parle de louange, mais on se borne à écouter un groupe de chanteurs ou un orchestre. Et pour ce qui concerne l'Église catholique, elle continue dans toutes ses erreurs basiques de son culte. Alors, l'écuménisme ne rejette rien de peur de se voir barrer le chemin de l'unité. Alors, bien entendu, ils ont quelque chose en commun aussi, c'est l'engagement politique. Alors, ça mène à la ruine. L'autre trait marquant de toutes les organisations ecclésiastiques modernes est le souci de leur influence terrestre, voire politique. Les églises sont toujours davantage préoccupées par les problèmes du jour, aussi bien économiques que sociaux et politiques, estimant que leur tâche est d'y fournir des réponses et de contribuer à l'édification de la société. Cela revient à mettre de côté l'Écriture et à refuser la qualité d'étranger, comme on parle des chrétiens dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Faire du bien à tous les hommes, comme il est dit dans Galates 6, verset 10, n'est pas s'immiscer dans leur démêlée. Ceux qui éprouvent spécialement que les divisions entre chrétiens sont un facteur de faiblesse pour la chrétienté en tant que puissance mondiale, ce sont surtout les chrétiens de nom. Ils ne voient dans l'Église qu'un organisme de ce monde et dans le christianisme qu'un élément moral utile. La chrétienté a été envahie par l'irreligion alors qu'on la veut plus forte encore que dans le passé et on essaie de parer à cette menace en s'unissant. C'est alors l'inverse qui arrive. Alors, l'unification selon l'écuménisme, alors on va regarder les méthodes à la lumière de la parole de Dieu. Excusez. Alors, l'unité de son Église, faite par Dieu, est une unité entre les croyants, membres du corps de Christ, Christ en étant la tête de ce corps. C'est ce qu'enseigne notamment l'Épître aux Éphésiens et la première aux Corinthiens. Cette unité existe et n'a rien à voir avec les efforts de l'écuménisme. Ce mouvement cherche à unir des églises entre elles, chacune gardant plus ou moins son individualité. Alors, c'est vraiment unir en perpétuant les divisions. Il semblerait que la seule chose à dire soit « nous sommes un, laissons tomber toutes les séparations édifiées par les hommes entre croyants et gardons au contraire soigneusement » ensemble, la vérité divine dans la séparation entre les croyants et le monde. Or, voici qu'apparaissent les plus grandes incohérences. L'existence même de plusieurs églises distinctes contredit l'unité de l'Église. Ceux qui parlent le plus d'abaisser les barrières entre les groupes ne cessent de mettre en avant leurs églises, chacun avec sa foi propre, sans parler de ses rites. La notion membre du corps de Christ, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier, comme il est exprimé dans 1 Corinthiens 12, 27, échappe. Les individus n'étant pas considérés comme membres d'une Église. Certains parlent quand même de corps de Christ, mais ou bien ils considèrent que les Églises elles-mêmes sont ses membres, ce qui est tout à fait contraire à ce que dit la parole en 1 Corinthiens 12, ou bien on va jusqu'à considérer les personnes comme membres de ce corps de Christ par l'intermédiaire de leurs églises, ce qui n'est pas mieux. On estime donc que ce sont les églises qui ont à s'entendre entre elles. Cela revient à consacrer la division de chrétiens appartenant à des églises différentes. D'autres espèrent fusionner à la longue les dénominations protestantes entre elles, puis les unir ensuite dans un vaste ensemble avec les églises orthodoxes et romaines, dans la tolérance mutuelle de leurs différentes vues. Cela revient de nouveau à perpétuer les divisions, tout en supprimant les étiquettes, ou bien à présenter comme unité le mélange d'éléments inconciliables, et voilà une nouvelle incohérence. Alors l'unité du corps de Christ n'est ni l'unification extérieure d'églises visibles, ni la mise en commun de certaines convictions aux dépens des vérités fondamentales du christianisme. Alors, on parle d'une unification extérieure. D'où viennent en effet les divisions, sinon du fait que l'esprit de l'homme a supplanté l'action de l'esprit de Dieu? La foi chrétienne a été interpellée par les uns d'une manière, par les autres, d'une autre, chaque dénomination la confessant selon sa conception particulière. En quelque sorte, les Églises disent maintenant « rapprochons-nous, mettons en commun le plus grand nombre possible de nos convictions, tout en conservant les particularités qui, présentement, nous séparent. » Or, ces particularités touchent le plus souvent au fondement du christianisme. Peu importe, semble-t-on dire, pourvu que les différents groupes collaborent à l'unification extérieure. Alors, la vérité et la parole de Dieu sont mises de côté. Cette question a déjà été abordée plus haut, mais il y a une vérité et il faut la garder. Mais la vérité, c'est Christ, Jean 14, verset 26, tel que le Saint-Esprit le fait connaître par la parole de Dieu. Or, pour permettre le rapprochement d'Église, on consent ou consentirait à faire coexister des opinions divergentes sur la divinité de Christ, sur son humanité, sur son existence historique même, aussi bien que sur la réalité de sa résurrection, sur la rédemption, sur l'inspiration des Écritures, sur la signification de la croix, sur le jugement éternel. Qu'on le veuille ou non, tout se fait par compromis sur la vérité de l'Écriture. D'autres vont plus loin. Estimant qu'on n'arrive pas à s'entendre sur la doctrine, on déclare que la doctrine divise et qu'il vaut mieux ne pas s'en occuper. C'est une caractéristique du temps d'être de plus en plus indifférent à la vérité, voire même de prétendre qu'il n'y a pas de vérité absolue. Nous répondons avec l'Écriture, dans sa lettre et dans son esprit. Jésus dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. « La parole de Dieu est la vérité » Jean 17, verset 17. « Le Christ est-il divisé ?» 1 Corinthiens 1, verset 13. Et encore, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu » Éphésiens chapitre 4, verset 13. L'exhortation de Jude à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints dans Jude 3 s'applique encore aujourd'hui. Mettre la foi en morceaux pour unir les hommes sur ses ruines, prétendre mieux vivre en tarissant les sources de la vie, mettre les spéculations des hommes au rang de la vérité de Dieu, discuter et disséquer sa parole au lieu de se soumettre à elle, tout cela n'est pas le chemin du vrai chrétien. En tout cas, ce n'est pas l'amour dans la vérité. Tout se passe comme si, tout en se lamentant d'avoir laissé une eau se corrompre diversement dans des canaux multiples, envahis par des déchets de toute provenance, on faisait toutes sortes de plans pour retrouver l'eau pure en combinant ces eaux polluées au lieu de revenir à la source. Très belle image. Alors, l'unité, selon le catholicisme, la tradition annule la parole de Dieu. En face de toute cette activité écuménique, le catholique s'intéresse aussi à l'unité. Sa position est bien plus nette et claire. Elle consiste à s'efforcer de ramener dans son bercail les autres chrétiens, ceux qu'elle rejetait autrefois, en disant « hors de l'Église, point de salut ». Et maintenant, elle les appelle des frères séparés. Mais sa doctrine ne change pas. Malgré les avantages pris par ce que l'on appelle le progressisme, c'est-à-dire un certain accommodement avec les idées modernes, sur l'intégrisme, c'est-à-dire l'attachement irréductible au dogme, elle se renierait si elle abandonnait sa tradition, sa hiérarchie, ses dogmes, celui de l'infaillibilité pontificale comme celui de la présence réelle dans le sacrifice de la messe, l'intercession des saints, le culte marial, l'Immaculée Conception et l'Assomption de la Vierge, Marie médiatrice des grâces, la réversibilité des mérites, les indulgences, etc. Ces doctrines et pratiques dérivent de la tradition et celles-ci annulent la parole de Dieu conformément à ce que dit notre Seigneur en Matthieu, chapitre 15, verset 6. En face de cette puissance du catholicisme, l'autre moitié du monde christianisé n'a pas de saine doctrine à opposer. On se flatte de faire vivre ensemble sur des formules ambiguës, les conceptions les plus diverses, mais qui ne sont que des notions religieuses aussi larges que possible. On infléchit même la doctrine et les pratiques vers le catholicisme. Sans une doctrine saine et sûre, on ne peut résister à l'absorption par Rome. C'est bien l'orientation qui paraît prévaloir de plus en plus. Et une des dernières choses qu'on va regarder, c'est quand le centre de rassemblement et d'unité devient l'homme. Quand la parole de Dieu est mise de côté comme seule référence pour nous conduire, quand Christ n'est plus le seul et vrai centre de rassemblement des croyants, l'homme le remplace. On trouve toutes sortes de leaders, de meneurs, de pasteurs, de prétendus prophètes, de conducteurs de louanges. Dans l'Église catholique, l'Église au sens propre est constituée par le clergé, hiérarchie, curé, évêque, pape ou encore la Vierge et les saints. C'est l'homme sous des formes particulières. Le sommet de ce désordre sera quand l'Antichrist, l'homme de péché, s'assiera au temple de Dieu, se présentant comme étant Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Alors, le dernier chapitre, le dernier est très important parce que là, on parle non seulement de l'unité entre les chrétiens professants, mais on voit que l'écuméniste cherche à s'étendre, à unir l'ensemble des grandes religions du monde. Alors, une évolution de l'écuménisme méritant d'être notée est le rapprochement avec les églises non chrétiennes. Des religions animistes ont même été intégrées dans certaines cérémonies. Même l'Église catholique s'est engagée dans le dialogue interreligieux, notamment avec les rencontres d'assises. On a vu ça récemment. Sous prétexte de paix dans le monde, de fraternité de tous les hommes, on installe d'abord un dialogue, puis on échange des orateurs, acceptant même ceux qui propagent de fausses doctrines. Ensuite, délaissant la vérité chrétienne, on multiplie les appels pour contribuer à la paix dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Ces appels réclament une coopération de toutes les religions. Or, on ne peut échapper au fait que l'islam, par exemple, nie la divinité du Seigneur et, par là, participe au caractère de l'Antichrist selon 1 Jean chapitre 2 et qu'il ne propose aucun sauveur, mais seulement des rites religieux. Comment peut-on faire coopérer Christ avec l'Antichrist? C'est le doigt dans l'engrenage de la confusion religieuse la plus complète, l'engrenage de l'évolution vers la Babylone future de l'Apocalypse. Alors, une application, mais qui est quand même une grande application, prions le Seigneur de nous donner beaucoup de discernement et de courage dans ces temps difficiles, par sa grâce et pour sa gloire.
Amen.
Amen.